Et notre invitée ce matin, Elisabeth Jacques, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Maire de la Condamine, Châtelard, conseillère départementale des Alpes de Haute-Provence, pardon, vice-présidente, cinquième vice-présidente de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye-Serponçon. Tout d'abord, vous êtes élue dans un département de droite. On se souvient, vous avez été suppléante de Christophe Castaner aux législatives. Aujourd'hui, vous situez où votre ligne politique? On rappelle Christophe Castaner qui était le candidat, bien sûr, de Renaissance.
Oui, tout à fait. Alors, rien n'a changé, en fait. Hein, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Christophe Castaner avait souhaité que je l'accompagne lors des législatives. C'est-à-dire qu'on avait un vrai parcours en commun à ce moment-là à constituer ensemble pour notre département, pour une visibilité plus grande des Alpes de Haute-Provence, pour continuer avec lui le besoin de revendication de ce département. Et c'est à ce titre-là qu'il était venu me chercher. Il avait vraiment voulu chercher une femme de droite. Il n'y avait pas de quiproquo entre nous. La droite, après, c'est une droite plurielle et multiple sur lesquelles on peut se retrouver à différents niveaux. Moi, je suis sur une droite qui avait besoin aujourd'hui d'exister au sein des Alpes de Haute-Provence, celle d'Éliane Bareil, la majorité départementale. Il n'y avait pas de changement. Donc, on reste sur une ligne de droite. Je rassure mes amis qui s'étaient inquiétés à l'époque. Rien n'avait changé, j'avais tenu cette explication pour tous. Et c'est aussi la méthode de Christophe Castaner qui avait voulu s'entourer de personnes ancrées sur le territoire, qui avaient quelque chose à dire, notamment nous en ce qui concernait la montagne, pour la particularité montagneuse du département. En fait, des gens qui avaient de quoi dire sur les dossiers, quoi, on va dire.
Vous justifiez même un peu le propos de Jean-Marc Richelme, l'actuel délégué départemental du Rassemblement National dans les Alpes de Provence, après son parcours au sein des Républicains. Il disait « la droite s'est tellement macronisée aujourd'hui que je ne vois mon avenir que par le Rassemblement National ».
Alors c'est un choix, il faut pas se défausser, c'est-à-dire que moi les Républicains et la démarche nationale des Républicains, cette refondation nécessaire, c'est leur parti pris. Moi, je n'étais pas encartée aux Républicains. Le besoin d'aller sur le Rassemblement National, moi, j'en ai parlé aussi à Christian Girard, c'est pas du tout aujourd'hui quelque chose qui me séduit. Donc, et je pense que ça ne viendra pas dans l'avenir. Je n'ai pas besoin, en fait, de me réfugier sous une étiquette et un parti politique. C'est pas le propos. Je préfère une démarche de territoire aujourd'hui. Moi, je suis jeune élue. On ne peut pas baser une politique personnelle sur autre chose qu'un mandat local, connaître la France et les Français à travers ce mandat. Le plus beau mandat, c'est celui de maire, celui qui vous apprend à être à la disposition du territoire et des gens qui y habitent. À partir de là, je n'ai pas besoin, moi, de me réfugier sous une étiquette politique en disant finalement les Républicains se sont trop macronisés, je vais partir sur le Rassemblement National. Je pense pas que ce soit vraiment le cas. Je pense que les Républicains ont toute leur place au sein de l'échiquier. Au point de vue départemental, on a des gens de grande qualité qui sont également aux Républicains, sur qui travaillent très bien sur leur territoire. D'ailleurs, pour une partie qui font partie de la majorité d'Éliane Bareil. Non, pour moi, ce n'est pas une solution de se dire que l'étiquette compte.
Vous disiez justement il y a quelques instants, le premier mandat politique, l'un des plus importants en tout cas, c'est le mandat de maire, un mandat qui revient un peu au centre de l'actualité aujourd'hui puisqu'Elisabeth Borne, la première ministre, va présenter son plan pour les crèches et justement ce plan pour les crèches sera axé sur les maires, que ce soit les maires de communes rurales ou les maires de plus de communes de plus de 10 000 habitants. Il était temps qu'enfin la politique s'axe autour du mandat de maire, du mandat d'un élu local?
Alors oui, je pense que c'est le maillon principal parce que c'est celui qui donne la tonalité, c'est celui qui donne la confiance en la politique aux Français. Si le maire est une personne qui a encore les moyens d'agir sur son territoire, c'est quelqu'un qui donne envie aux gens soit de faire partie de son équipe, hein, parce qu'on a quand même aujourd'hui une difficulté également de constituer des équipes complètes au sein de nos conseils municipaux, puisqu'il y a un côté un petit peu aussi désengagement. Donc si le maire est mis sur les épaules du maire la priorité du développement territorial, c'est quelque chose qui va raccrocher les Français. Donc oui, alors je ne sais pas s'il est temps, parce que je ne peux pas juger de l'évolution personnellement, mais en tout état de cause, il faut que également le programme local soit construit avec les maires, Sinon, il devient vite complètement décorrélé de la réalité des attentes des citoyens.
Alors, vous siégez au sein du conseil communautaire de la communauté de communes, hein, de la vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon. On se souvient de l'épisode de décembre dernier, épisode de boycott, où vous étiez pratiquement la représentante de l'opposition face à Sophie Vaginet-Ricourt, la présidente. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec la présidente de la communauté de communes?
Je pense que c'est pas vraiment la question à se poser. Un rapport entre deux personnes, c'est pas tout à fait l'intérêt.
Alors la question, c'est quoi? C'est pourquoi ce désaccord?
Oui, je pense que le plus important, c'est pourquoi aujourd'hui on a une majorité de communes de la communauté de communes qui ne s'était plus retrouvée au sein de l'organisme de la communauté de communes. Je pense que c'était un petit peu ça la difficulté. La personne de Sophie Vaginet ou la personne d'Elisabeth Jacques n'a que peu d'intérêt pour les Ubayens. Nous, ce qui nous a manqué, je pense, je n'ai pas voulu porter une fronde ou une revendication. Hein. Mon but n'était pas de le porter du tout. Après, on a des voix qui portent plus que d'autres. Visiblement, j'ai une voix qui porte un peu plus et j'en suis ravie. Mais l'objectif était de se dire, aujourd'hui, on arrête là, on avance sans projet politique, on avance sans ligne directrice. On a une communauté de communes qui, sous le poids des compétences qui lui ont été données, s'est retrouvée à gérer uniquement ses projets intercommunaux en lâchant ses communes. Nous sommes des petites communes de ruralité, nous avons très peu d'ingénierie, nous avons des secrétaires de mairie qui donnent corps et âme à la mission qui est la leur. Hein. C'est lorsqu'on dit que le maire doit être au centre de la priorité nationale pour les prises de décision sur son territoire, c'est vrai, mais il faut rappeler aussi qu'on a des équipes qui sont des secrétaires de mairie pour l'essentiel, nous sommes des toutes petites communes, avec donc du coup une ingénierie qui est limitée, et la communauté de communes a perdu ce sens d'être à la disposition des communes. Donc vous aviez des maires qui avaient l'impression de ne plus être soutenus par la communauté de communes, qui participaient à des assemblées communautaires sur lesquels il n'y avait pas de projet politique. Aujourd'hui, on attend toujours les arbitrages de se dire, aujourd'hui, c'est quoi la vallée du Bail? C'est quoi l'objectif de la vallée du Bail à 5, 10, 15, 20 ans? Où on se va? Où on va? Où on se positionne pour l'avenir? Aujourd'hui, le tout-ski, malheureusement, on le sait, c'est fini, mais le ski n'est pas fini. Donc, quel est l'équilibrage à trouver sur les démarches budgétaires? Quelle est l'évolution économique qui est proposée? Quelle est la richesse de la vallée du Bail à promouvoir pour les années à venir et pour promettre aujourd'hui à nos habitants qu'il fera bon vivre en Ubaye, qu'ils peuvent encore investir dans la vallée?
Mais vous êtes tombé en accord avec Sophie Vaginet-Ricourt, puisqu'elle elle disait, Elisabeth Jacques a incité, notamment, et Jean-Michel Tron, ont incité certains maires à voter contre la voie cyclable Josier-Barcelonnette, projet phare et attendu, un projet qui est aujourd'hui en danger. Ils ont voté contre les programmes européens indispensables au développement du territoire et les projets d'avenir défendus par Barcelonnette, Josier en Chastraille et Méolan-Revel.
Non, là, c'est une démarche politique. Madame Sophie Vaginet est habile dans la manière dont elle le présente, c'est tout. Aujourd'hui, je suis déléguée à la mobilité douce au sein du département des Alpes-de-Haute-Provence. Et pour les auditeurs qui m'écoutent, je suis propriétaire de magasin de vélo assistance électrique. Donc c'est une blague de dire qu'on vote contre une piste cyclable. Non, on vote contre un tracé de piste cyclable qui nous a pas été présenté, qui n'a pas été voté par cette majorité-là, qui est un choix de mobilité qui devait faire débat, sur lesquels on n'a pas écouté les élus, et notamment pas la maire de Faucon de Barcelonnette. Donc, c'était plutôt sur la méthodologie et le choix technique qui a été mis en cause, et pas du tout la mobilité en elle-même. Aujourd'hui, vous parlez de M. Jean-Michel Tron, le plus gros projet majeur structurant de la nouvelle, on va dire, économie touristique basée sur de l'activité notamment estivale, et un projet de mobilité douce. Donc, sur ce sujet-là, il n'y avait même pas de débat. Donc, on vote contre parce que, à nouveau, que fait-on de cette piste cyclable? Où va-t-on? Et il était peut-être éventuellement intéressant d'y ajouter un petit peu de concertation, ce qui n'est pas le fort aujourd'hui de la communauté de communes. Le deuxième sujet, c'est sur les fonds européens. Clairement, à nouveau, moi, je siège au sein du groupement d'action locale qui portait le précédent, donc leader. Alors, je suis désolée d'être très technique, mais c'est sur
c'est
cette,
le GAL.
Cette programmation européenne. Oui, exactement, c'est le GAL qui porte un leader sur une programmation européenne qui est extrêmement intéressante. Et donc, je fais partie du GAL. Et c'est pas pour rien hein, que j'avais souhaité y siéger. C'est une action qui est extrêmement intéressante et la proposition qui a été faite était une proposition épidermique de deux territoires et la vallée du Baki ne voulait plus travailler avec un territoire, du moins la présidente de la communauté de communes ne voulait plus travailler avec ce territoire alors qu'on avait un succès fulgurant du GAL tel qu'il était proposé. Alors quand les choses marchent, moi j'ai tendance à dire qu'on n'a pas à les changer, on a déjà assez de travail à faire sur ce qui ne marche pas.
Aujourd'hui les discussions sont plus apaisées avec Sophie Vaginéry-Court.
Il y a des marqueurs qui sont intéressants et donc on laisse la place au dialogue. C'est-à-dire que nous souhaitions que soit projeté un organigramme plus efficace au sein de la communauté de communes permettant aux agents de pouvoir s'épanouir au sein de cette collectivité. On a donc du coup un recrutement qui a été réalisé d'un directeur des services sur lesquels nous attendons un résultat positif à la fois sur le montage des projets communaux et à la fois sur la qualité de travail des agents. C'est un marqueur positif, c'était une demande qu'on avait faite à la présidente, donc elle a accédé à notre demande. Ensuite, on avait également souhaité que nous soit enfin présenté un organigramme pour qu'on puisse organiser correctement les services et les attentes des Ubaïens au sein de la communauté de communes. Il est en cours de travail, donc à nouveau, moi je fais plutôt partie des gens qui ont une politique de main tendue, donc j'attends un résultat. Et donc du coup, on laisse le temps au travail avant de pouvoir se repositionner. Et le dernier point est la proposition d'un projet politique. Je crains qu'il soit un petit peu tard dans le mandat pour la présidente pour nous le présenter et y travailler. Mais en tout cas, je crois savoir que c'est le cas aujourd'hui et qu'elle souhaite le concerter avec les élus. Donc, c'était trois demandes que nous avions sur lesquelles elle répond de manière positive. Donc, on va laisser le temps au travail. Après, on se repositionnera pardon, sur sujet.
Il y a du mieux. Parlons des militaires de retour dans les Alpes de Provence, notamment dans la vallée du Bas. C'est la question qui se pose, notamment du côté de la Condamine Châtelard, avec le centre de réoxygénation des sous-mariniers qui est à l'abandon depuis 10 ans. Ils vont revenir, les militaires?
Écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas répondre de manière ferme et définitive, puisque finalement, les éléments de choix et les prises de décision nous échappent. Ce n'est pas moi qui vais prendre la décision. En tout cas, j'ai agi en faveur. Je suis extrêmement favorable, moi, à ce retour des militaires, alors du moins, de manière générale, tout simplement, tout ce qui va pouvoir dynamiser notre secteur et qui ne sera pas lié 100% à l'activité touristique. Donc, je ne peux pas répondre si aujourd'hui c'est le cas. Je peux vous dire que c'est en bonne voie, que c'est un travail conséquent, qui a été extrêmement bien travaillé de la part donc de l'armée. C'est un dossier qui sera travaillé intelligemment,
Vous fixez des règles, des contraintes, notamment, face à certaines inquiétudes qui pourraient se faire quant au retour des militaires.
Alors, il ne faut pas. Moi, je n'agis pas comme ça. C'est-à-dire que je suis facilitateur. Maintenant, on est facilitateur et on a des réalités face à nous. Pourquoi mettre des contraintes? Aujourd'hui, si on parle entre personnes qui ont envie de faire les choses correctement. Donc, on n'a pas besoin de se mettre en situation d'opposition. Donc, si on nous dit, est-ce qu'aujourd'hui, il faut que la qualité de vie soit maintenue au sein du village de la Condamine et qu'on n'ait pas de nuisance, c'est une évidence. Donc, elle est déjà traitée, déjà dans les attendues premières du dossier et de manière collégiale avec l'armée. Si on nous dit aujourd'hui, il est nécessaire de maintenir notre qualité environnementale et l'environnement général des sites qui seront utilisés par les militaires, c'est une évidence. Aujourd'hui, l'armée a au sein de ses services un vrai service de développement durable et on n'est plus du tout dans des activités de nuisance par l'armée. Donc, si on parle de ces oppositions-là, il n'y en a pas, en fait. Hein, le dossier a été directement constitué en prenant en compte les intérêts et atouts du territoire. Donc, oui, il y a des contreparties.
Oui, les discussions sont en cours, pas d'effectifs en tout cas annoncés pour l'heure par l'armée. Vous ne savez pas combien de militaires pourraient revenir, pendant combien de temps?
Moi, je pense que ce n'est pas à moi de le dire. C'est-à-dire que j'ai des informations très concrètes sur les opérations de travail, vu que les décisions ne sont pas encore prises par l'intégralité de l'état-major, que nous sommes encore sur des démarches budgétaires. Je pense que ce n'est pas à moi de l'annoncer. Il y a une conférence de presse qui sera donnée par l'état-major de l'armée sur le sujet dès qu'ils seront prêts, et ça va venir très vite. C'est un engagement qui est pris de leur part de communiquer très vite, puisqu'on a besoin de communication fort. Mais je pense que chacun a sa place. Moi, je dois travailler sur le dossier. Je dois faire cela en faveur de ma commune. Et après, les conférences de presse sont données par les gens qui prennent les décisions.
Merci beaucoup.
Voilà, préparation.
Merci beaucoup, Elisabeth Jacques, d'avoir été avec nous ce matin. Maire de la Condamine-Châtelard, l'arc-en-ciel départemental des Alpes-de-Provence, vice-présidente au sein de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serponçon. Merci d'avoir été l'invité.